Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. Au menu du débat de ce jeudi, la visite du secrétaire d'État américain Rex Tillerson au Mexique. Un déplacement dans un contexte très tendu, le Mexique étant devenu la première cible de l'offensive protectionniste de la nouvelle administration américaine. Donald Trump l'avait dit pendant sa campagne et il persiste, il veut construire un mur à la frontière entre les deux pays, le faire payer par Mexico. Il veut aussi dénoncer, renégocier l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, et puis durcir la politique migratoire. En réponse, le président Peña Nieto avait été jusqu'à annuler son déplacement fin janvier à Washington. Mais le Mexique peut-il se passer des États-Unis? C'est notre débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir dans ce studio deux invités. Alain Musset, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, EHESS. Vous êtes géographe. En face de vous, Pierre Salama, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur émérite à l'université Paris 13. Pierre Salama, alors avant de vous demander quelles pourraient être les conséquences pour le Mexique d'un respect par Donald Trump des mesures qu'il a promis, une première question, est-ce qu'il y a déjà un effet Trump sur l'économie mexicaine?
Sur l'économie même, tout de suite, non, c'est pas possible. Mais dans la tête des gens, oui. Et dans le comportement des investisseurs, oui.
Un effet plus des spéculateurs. Psychologique.
Oui, bien sûr. Après avoir été humiliés comme ils l'ont été durant toute la campagne et avec une reprise une fois qu'il est devenu président des États-Unis, oui, c'est certain, c'est absolument certain. C'est un torrent d'insultes qu'il leur donne tous les jours et non, ils sont très 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 humiliés.
Et on a aussi
humiliés.
Beaucoup parlé du cours du peso, de la monnaie mexicaine.
La monnaie a chuté à peu près en un an de 25%, mais depuis, bizarrement, depuis 15 jours, 3 semaines, elle remonte, elle se réapprécie légèrement de nouveau.
Est-ce que vous parleriez pour autant d'une économie fragile à ce stade ?
Fragilisée, oui. Elle était déjà fragile, mais ça, c'était pas la faute de Trump, c'était la faute des gouvernements, peut-être. Mais là, oui, elle est fragilisée.
Alain Musset ?
Oui, elle est fragilisée, mais en même temps, les deux économies sont très interdépendantes. Donc, ce sont des économies qui fonctionnent en synergie, avec des échanges permanents, à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles, et c'est pas seulement les maquiladoras, les célèbres maquiladoras, donc ces usines d'assemblage installées au sud de la frontière pour réexporter les produits ensuite vers les États-Unis, ces produits que, justement, Trump veut
taxer
pour payer le mur. Donc c'est tellement, je dirais, maintenant homogène entre les deux États, même si c'est, une relation inégale entre les deux, que, ils peuvent pas se permettre le luxe d'enfoncer le Mexique. Ça, c'est évident, parce que ce serait de toute façon un impact terrible aussi sur l'économie américaine.
Alors, on va peut-être donner quelques chiffres. Vous disiez des économies interdépendantes. Aujourd'hui, 80% des exportations mexicaines le sont à destination des États-Unis. C'est effectivement
et du Canada.
C'est absolument énorme. Et il y a cette ALENA, donc un accord qui est en vigueur depuis 1994, un accord de libre-échange qui a permis la création d'un marché très intégré. C'est ce que vous disiez. Les conséquences sont là, qui a depuis développé une industrie florissante, notamment dans l'automobile, mais aussi dans l'aéronautique et dans la mécanique. Alors, selon vous, Alain Musset, quelles conséquences aurait une renégociation de l'ALENA aujourd'hui ?
Alors, c'est tout simple. C'est difficile à dire, mais s'il y a une vraie renégociation, ça veut dire que c'est pas seulement entre les États-Unis et le Mexique, c'est aussi avec le Canada. Il faut pas l'oublier. Le Canada, a aussi des relations qui ne sont pas nécessairement faciles, contrairement à ce qu'on croit, avec les États-Unis.
Donc. Mais Justin Trudeau est un des premiers à aller à Washington, et il a déjà commencé à dire, je vais faire des relations bilatérales.
Mais bien sûr, parce que c'était pour rattraper le coup des musulmans qui étaient interdits du côté américain, et lui avait dit non mais venez, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs il y a pas mal de migrants clandestins musulmans ou non qui sont aux États-Unis et qui passent la frontière et qui vont de l'autre côté, la frontière nord-canadienne.
Alors revenons à nos moutons, donc les conséquences éventuelles sur l'économie mexicaine.
Alors les conséquences, si on renégocie réellement les traités, ça veut dire que les produits mexicains exportés aux États-Unis vont être plus chers. C'est évident.
Et de beaucoup. A priori, si on parle de 20% de taxes,
c'est énorme. Bon, on peut récupérer une partie. L'économiste le dira sans doute mieux que moi. On peut partager, mais ce sera plus cher. Et qui va payer? Ce sont les consommateurs américains. bien évidemment. Donc, il va y avoir un impact du côté mexicain. Peut-être que leurs produits vont s'exporter plus difficilement. Sauf que, et on l'a vu justement avec la baisse du peso, les produits justement mexicains étaient valorisés, donc ils étaient plus facilement exportables aux États-Unis. Donc vous voyez,
donc
c'est un jeu.
C'est pas si simple finalement.
Non, bien sûr que non.
Vous
non.
avez le même avis, Pierre Salama, ou l'économiste a un autre regard.
Globalement, j'ai le même avis, mais je pense que c'est un bras de fer à l'heure actuelle qui s'opère. C'est un jeu de billard avec trois bandes. Derrière, c'est la Chine.
Et oui.
On tape sur le Mexique. Si le ventre est mou, on tapera sur la Chine. Pourquoi ? Pour essayer de réduire le déficit nord-américain, de faire en sorte que l'Amérique redevienne grande, dit-on, mais via le protectionnisme. C'est quelque chose qui est assez horrible, assez obsolète aussi, puisque aujourd'hui l'économie est mondiale et globalisée. Mondiale, globalisée, ça veut dire que, en fait, aujourd'hui, les entreprises ont de multiples liens entre elles dans différents pays. Et là, par exemple, dans le cas du Mexique, c'est très net. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui est fait au Mexique, véritablement, et qu'est-ce qui est fait aux États-Unis. Tellement il y a des changes pour produire, par exemple, une voiture, il y a les composants, ils viennent d'ici, ils viennent de là, etc. Ils reviennent, ils repassent, ils repartent, ils reviennent, etc. Donc ça va être extrêmement compliqué, et surtout ça va mettre en jeu beaucoup de relations, de rapports de pouvoir, de lobby aux États-Unis, et ça risque de conduire aux États-Unis à un capitalisme de copain. À savoir, chacun va... S'il sent que la détermination de Trump, s'il sent que Trump va appliquer sa politique, chacun va essayer d'échapper et de faire des
favoritismes. Donc ce que vous voulez dire, concrètement, vous me dites si je me trompe, mais si je comprends en filigrane, ce que vous nous dites, c'est que par exemple dans l'automobile, qui est quand même un secteur très porteur au Mexique, avec des grandes sociétés américaines, les patrons de ces grandes sociétés qui n'ont pas forcément intérêt, c'est ce que vous nous disiez à l'instant, Alain Musset, à perdre ce marché mexicain, ou ces usines de fabrication vont aller voir Donald Trump parce qu'ils le connaissent, parce que c'est le même cercle, et lui dire « tu ne peux pas exactement faire comme ça ». C'est ça ce que vous êtes en train de nous dire ?
C'est à peu près ça, sauf que, en fait, quand s'ils sont aux États-Unis, s'ils sont au Mexique, c'est pour être aux États-Unis, et de manière compétitive. C'est pour ça que c'est un jeu avec... C'est comme au billard, de ce point de vue-là. Et donc, aujourd'hui, ce qu'ils essayent de faire, effectivement, c'est une espèce de bras de fer. Ils acceptent de céder, apparemment, parce qu'ils vont avoir une réduction de l'imposition sur les bénéfices, certainement, mais ils essayent aussi de faire en sorte que s'ils cèdent sur un nouvel investissement, ils n'auront peut-être pas à payer les 20%. Pour les investissements qui sont déjà réalisés, les stocks d'investissements qui sont déjà réalisés, les usines qui sont déjà en place. Ce qui veut dire en termes clairs que c'est un capitalisme de copains, ça veut dire ce n'est plus, la loi n'est plus universelle, elle s'applique à la tête du client. Et si on va là, c'est une catastrophe.
Alors, juste, vous allez déjà très très loin, mais je voulais revenir parce que nos auditeurs ne sont pas spécialistes de la structure de l'économie mexicaine et des liens entre le Mexique et les États-Unis. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, Alain Musset, c'est que, en fait, la structure économique mexicaine est quand même très tournée vers les États-Unis. Le long de cette fameuse frontière, là où il y a un tiers de mur et peut-être bientôt trois tiers de mur, il y a énormément d'usines direction les États-Unis. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui ?
Oui, parce que c'était un deal qui a été fait entre le gouvernement mexicain de l'époque et le gouvernement nord-américain. Avant, il y avait tout un système, c'était le programme Bracero. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça permettait de manière légale à des Mexicains d'aller travailler aux États-Unis dans l'agriculture, dans le bâtiment, dans l'industrie. En 1964-1965, ce programme s'est arrêté. Et donc, les Mexicains se sont retrouvés face à une situation très difficile. Que faire avec cet excès de main-d'œuvre ? Et l'idée, c'était de créer des usines sur la zone frontière, du côté mexicain, pour en fait offrir du travail aux Mexicains qui n'aillent pas de l'autre côté, qui reste du côté mexicain, et en même temps, ça permettait aux entreprises américaines de produire à bas coût, en profitant d'une main-d'œuvre très très bon marché, en général féminine, dans ces usines, et donc ça fonctionnait très très bien dans une frange qui était de 20 km à la frontière. Et donc là, on a monopolisé tout un espace pour de la production industrielle, or cet espace n'est pas fait pour. C'est complètement aberrant sur le plan écologique. On est dans une zone qui est une zone semi-désertique, où on a envoyé des populations et créé une situation désastreuse sur le plan écologique. Là, évidemment, on le paye aussi, parce que cette frontière-là, c'est pas seulement une frontière de, je dirais, d'hommes, de femmes, de production, etc. C'est aussi une zone écologique qui est d'une très grande fragilité, et le mur va impacter très fortement cette zone.
Et quand on voit ce genre de choses, cette description un petit peu du tissu économique mexicain, l'idée qu'on a, c'est que finalement, c'est une économie assez fermée, ou en tout cas toute tournée vers les États-Unis seulement. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une mauvaise description de l'économie mexicaine aujourd'hui?
80%, 82% exactement, des exportations du Mexique sont à destination des États-Unis principalement et du Canada ensuite. Maintenant, ceci dit, dans les importations, le Mexique est beaucoup plus ouvert. Et ce que l'on veut voir au Mexique, c'est la déferlante chinoise.
Oui.
Et là, ça, c'est très intéressant.
Alors,
et
comment ça se manifeste, la présence des Chinois?
C'est simplement que les Chinois viennent et les Mexicains importent de plus en plus de produits chinois, y compris pour faire des produits à destination des États-Unis.
D'où l'imbrication dont on parlait tout à l'heure.
Et donc on a 60% seulement du commerce des importations du Mexique, c'est 60% seulement, 80%, 82 pour les exportations. Tout le déficit assez important des États-Unis vis-à-vis du Mexique. Mais cette situation est une situation qui est une situation, je crois, c'est pas seulement des données statistiques. Derrière cela, il y a un problème. C'est, on l'a souligné tout à l'heure, le mur et surtout l'imposition nouvelle, si elle se fait, c'est une augmentation des coûts, des prix très importantes aux États-Unis. Et donc, une réduction des revenus, y compris et surtout peut-être des catégories les moins aisées aux États-Unis. Mais au Mexique, c'est une catastrophe aussi, parce que on peut pas dire qu'ils aient profité. Ils n'ont pas profité véritablement de l'ALENA, c'est-à-dire cet
alors
accord de commerce.
Alors que c'est ce que dit Donald Trump, hein, qui dit qu'ils en ont finalement beaucoup plus
profité
que nous.
Non, pas du tout. Les salaires, si vous comparez par rapport à l'Amérique latine, vous observeriez la chose suivante, c'est que les revenus, les salaires ont très très peu augmenté, sont très très bas. Beaucoup plus bas, par exemple, qu'au Brésil, en Argentine, etc. Donc, sont bas, bien. Mais la catastrophe, c'est que là, maintenant, ils risquent de perdre leur emploi pour partie d'entre eux.
Mais alors, donc, j'imagine qu'aujourd'hui, la grande question, c'est si jamais Donald Trump maintient ses promesses, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que se tourner vers d'autres acteurs, type la Chine, l'Union européenne, d'autres pays d'Amérique latine, est-ce que c'est ce qui est en train de se passer comme genre de réflexion?
C'est très, Alain, très difficile pour le Mexique, parce que, je dirais, les produits mexicains qui sont exportés vers les États-Unis ne peuvent pas l'être vers la Chine. D'abord parce qu'il y a des liens, essentiels entre les capitalistes nord-américains qui investissent au Mexique et qui ensuite profitent évidemment de ce travail, mais c'est que surtout ils ne sont pas compétitifs sur le marché chinois. Et d'ailleurs, maintenant, la Chine est le deuxième pays qui exporte vers le Mexique.
Donc le Mexique est un Eldorado pour la Chine, mais la Chine n'est pas un Eldorado pour le Mexique, c'est ça ?
Elle n'a pas de matière première.
Non, elle ne peut pas. Reportant l'histoire est importante parce qu'on a tendance à l'oublier. Il y a eu de très grandes relations entre la Chine et la Nouvelle-Espagne et ensuite le Mexique. Avec la Nao de China, c'était une flotte qui traversait le Pacifique et qui, chaque année, faisait commerce entre les deux continents. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir que, par exemple, la Nouvelle-Espagne, c'est-à-dire la colonie espagnole du Mexique, exportait de l'argent vers la Chine parce que le taux, la valeur de l'argent était plus favorable par rapport à l'or là-bas. Et bien ça a continué aussi à l'époque mexicaine, après le Mexique indépendant, parce qu'il y avait une volonté et il y avait un intérêt. Là, l'intérêt, il n'existe plus.
Vous êtes d'accord, Pierre Salama? La Chine, c'est finalement pas...
Je vous donne un chiffre qui est très simple. Pour un dollar qu'exporte le Mexique à la Chine, il en importe 9. Le rapport de 1 à 9, c'est énorme, c'est
gigantesque. Totalement déséquilibré.
Et aujourd'hui, c'est la porte ouverte, et le président chinois l'a très bien compris, c'est la porte ouverte à la Chine, les mesures que c'est de prendre Trump. Il se présente d'ailleurs, vous savez, comme l'homme du libre-échange. Vous imaginez un peu la Chine, l'homme du libre-échange.
Oui, et on en avait d'ailleurs fait un débat à Davos, il avait tenu ses propos.
Et là, on a un problème maintenant de géostratégie qui est très important. Jusqu'à très peu de temps, l'Amérique latine, c'était la doctrine Monroe, si on peut dire, à savoir que les États-Unis n'acceptaient pas qu'il y ait des interventions étrangères en Amérique latine. Aujourd'hui, déjà, les Chinois sont déjà présents. Ils sont encore plus présents. Et là, maintenant, cette fois-ci, à la frontière avec les États-Unis. Et là, c'est un énorme problème pour les États-Unis. Un problème politique à ce niveau-là.
Alors, revenons au Mexique, puisque c'est le Mexique qui nous intéresse ce soir. Donc, vous nous dites, finalement, la Chine, c'est pas un débouché. Et l'Union européenne, il y a eu le Mexique qui a voulu moderniser l'accord qui a été signé, puisqu'il y a un accord de libre-échange qui a été signé avec l'Union européenne. C'est, je crois, 53 milliards d'échanges en 2015. Est-ce que c'est un débouché important pour le Mexique face à cette fermeture des États-Unis?
Oui, bien sûr, c'est un débouché, mais... Vous l'avez dit vous-même, voilà, c'est 80%, ça va vers les États-Unis. Si on ferme la porte, honnêtement, le Mexique s'effondre. Mais on ne fermera pas la porte. Tout ça, c'est, je dirais, c'est de la rhétorique, c'est de la propagande. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre le risque économique et le risque politique de fermer la porte au pays qui est en dessous, et je dis bien là en dessous, parce que c'est comme ça qu'il est perçu, avec ses à peu près 130 millions d'habitants qui risquent de se mettre en colère.
Et donc les États-Unis ne peuvent pas se le permettre, les Mexicains non plus. De quel levier bénéficient aujourd'hui les Mexicains pour négocier ?
Toute crise est la porte ouverte à des solutions nouvelles. C'est comme ça qu'il faut le voir.
Lesquelles ?
Alors, la première, c'est qu'effectivement, il y a un problème économique. Il faut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire, il faut commencer un processus de diversification vers l'Europe, peut-être, mais je pense surtout vers l'Amérique latine.
Ça, c'est... Quel pays en Amérique latine?
Le Brésil. Les problèmes pour la voiture, par exemple. Il y a déjà des accords pour la voiture avec l'Argentine, le Brésil. Il y a des possibilités. C'est un long chemin. Ça se fait pas du jour au lendemain. On fait pas comme ça. Non, c'est bien compliqué. Mais il faut l'entamer. Politique aussi également. Il se trouve que le système politique est en voie d'épuisement, au Mexique. Aujourd'hui, c'est le prix du Parti révolutionnaire institutionnel qui est au pouvoir, qui était très favorable il n'était plus du tout nationaliste aux États-Unis, il se retrouve pris à contre-pied, il ne sait plus quoi faire, et d'autant, donc, gouvernement faible, et gouvernement d'autant plus faible qu'il est à sa cinquième année, c'est-à-dire une année avant la fin du mandat, et que donc il ne peut rien faire, et que donc il ne peut pas faire grand-chose, il n'est pas
donc
crédible.
Pour peser, le pouvoir mexicain vient de se renouveler
dans
aussi.
Dans cette campagne électorale qui s'ouvre, c'est une porte ouverte à de nouvelles solutions, peut-être nationalistes ou plus nationalistes. Et ça, je crois que ça peut être quelque chose qui peut donner peut-être un peu d'espoir.
Vous êtes d'accord, Alain Musset?
Oui, mais en même temps, il ne faut pas se faire d'illusions sur le nationalisme mexicain. Alors, c'est vrai qu'il existe.
Là, il faut quand même expliquer que ce qui se passe a ravivé une forme de nationalisme mexicain. On a eu des manifestations, on a des slogans.
Mais attention, ici, on les voit avec les yeux. Avec nos yeux, et on veut voir ce qu'on veut voir. Les manifestations contre Trump et contre le mur, celle du 12 février, à Mexico, ça a réuni 20 000 personnes. C'est rien. Il y en avait 10 fois plus pour protester contre l'augmentation du prix de l'essence. Pourquoi ? Parce que les gens... le sentiment qu'on essaye de les manipuler, que c'est le gouvernement mexicain qui monte tout ça en mayonnaise pour se refaire une virginité alors qu'il est cordialement détesté par une immense majorité de la population, et les gens ne veulent pas participer à cette résurrection du Parti révolutionnaire institutionnel. Donc, nationalisme, oui, mais le Mexique est un pays qui est terriblement divisé entre communautés, entre les ladinos, les métis, les populations indigènes. Il y a toujours au Chiapas la rébellion zapatiste. Donc, parler d'un nationalisme global...
Et alors, aujourd'hui, le débat politique, il est monopolisé par ce que vous venez de nous dire ou par ce que prévoit Donald Trump aujourd'hui? On en est où? On parle de quoi au Mexique?
Alors, oui, évidemment, on parle de Trump au Mexique, mais ça n'occulte pas... ce qui se passe à l'heure actuelle, le problème de la pauvreté, le problème de la violence, le problème du narcotrafic. Et ça, les gens disent, c'est pas le mur qui va nous masquer les vrais problèmes de la société mexicaine.
Vous êtes d'accord, Pierre Salama?
Il faut comprendre que le Mexique, depuis 20 ans, 25 ans, est l'enfant malade, si je puis dire, des grands pays latino-américains. La croissance de l'année dernière est seulement de 2016, de 2,3. Compte tenu du croît démographique, c'est vraiment pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Et donc là, ça s'accroît, les difficultés s'accroissent, d'autant qu'il a pris des mesures libérales, il a libéralisé pas mal de choses, notamment dans l'éducation, ça a provoqué pas mal de protestations. Oui. Et on est dans une situation très instable au niveau politique en ce moment. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelques lumières, mais elles sont très difficiles à maintenir allumées, si je puis dire, quelques lumières qui apparaissent.
Eh bien, donnons-nous rendez-vous, qui sait, dans un an, quelques mois, pour tirer un nouveau bilan. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de cette émission. Merci donc à Pierre Salama, économiste, professeur émérite à l'Université Paris 13. Merci à Alain Musset, géographe, directeur d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Merci à Florence Ponce, à Valentin Vaner. On se retrouve lundi. Demain, c'est avec François Bernard que vous avez rendez-vous.